le livre de la rive, comme ça je pourrais les préparer pour tout à l'heure. Et à la fin, la première chapitre, c'est tout excès dans de la rive. C'est le chapitre 25, les trois derniers versets, à partir du verset 17. Mais c'est attablé, je l'ai. De nouveau, nous avons une correspondance, puisque c'est le texte de la Torah qui rappelle le conflit de Amalek contre Israël au moment de la sortie d'Égypte, et que, de nouveau, cet épisode se retrouve dans une toute autre époque, celle que commémore la fête de Pourim, et où, de nouveau, Israël est en lutte, Israël qui était dispersé dans le royaume de Perse, est en lutte avec la descendance de Amalek, c'est-à-dire Aman, comme vous le savez d'autre part. Alors, tous ces éléments convergent. D'autre part, puisque le jeûne d'Esther a lieu mercredi prochain, donc il n'aura pas cours mercredi prochain, et je vous avais demandé la semaine dernière de préparer la paracha de Tikissa, qui est la paracha de la semaine prochaine, du cours qui n'aura pas lieu. Donc je redirai cela aujourd'hui, à la paracha de Tetzavé, et aux premiers éléments que je vous ai indiqués. Et nous verrons, comment dire, tout au long de l'étude, que c'est finalement le même thème, tout cela, que nous allons étudier. Et alors, je vous signale donc qu'il n'a pas cours mercredi prochain. Et puis, jeudi soir, on fera la tfila de Pourim, de Shushan Pourim, c'est-à-dire de Pourim de Jérusalem, qui a lieu vendredi et pas jeudi, comme dans le reste du pays, sauf les villes, c'est comme à Jérusalem. On fera la tfila ici, avec la lecture de la Megillah, à partir de 6 heures. D'habitude, chaque année, on fait cette tfila à Marianot, mais ça commence à devenir trop petit, alors on la fera ici. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Marianot le soir de Pourim, épargnez-vous les quelques centimètres qu'il faut faire et venez directement ici. Bien, alors je vais commencer par un premier enseignement de base sur la paracha de Tetzavé, et c'est un thème fondamental, habituel, fondamental bien qu'habituel d'ailleurs, sur cette paracha, c'est que c'est l'exception dans le récit de la Torah. Depuis que la Torah nous parle de Moïse, la paracha où son nom n'apparaît pas. Vous remarquez tout de suite, dès le premier verset, je vais prendre le premier verset de la paracha que vous savez dans les mots. C'est au chapitre 28, si je me souviens bien, attendez là. Et au chapitre 28, non, 27, verset 20. Voici comment commence le texte. Ve'ata, Tetzavé et Ben Israël, et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël, mais je vais de nouveau traduire de façon plus littérale d'après l'expression du texte. Ve'ata, Tetzavé et Ben Israël, et toi, tu recommanderas aux enfants d'Israël, et tu ordonneras aux enfants d'Israël. Veikru Elecha, ils prendront vers toi, ils prendront pour toi, vous rappelez la forme très analogue à ce que nous avons étudié la semaine dernière avec Rouma. Mais avec en plus, au lieu de d'Aber el Ben Israël, mais il y a Veata, Tetzavé, et quant à toi, Tetzavé, tu donneras la mitzvah aux enfants d'Israël. Veikru Elecha, Shemen Zaïdzar, Satik Lamao, le thème, c'est le mitzvot concernant l'huile du candélabre. Et ils t'apporteront de l'huile. Et Shemen Zahid, de l'huile d'olive, Zah, pur, l'huile pure, Tatit, broyé, de l'huile broyée, c'est-à-dire la première huile qui apparaît dès le broyage, le concassage, comme on dit, la première pression. La Mahor pour le luminaire, la Alot Ner Tani, littéralement pour faire monter une lumière perpétuelle. Il s'agit donc de la mitzvah concernant l'éclairage du temple. Ici, nous sommes encore dans le Mishkan, vous rappelez ce que nous avons appris la semaine dernière, du tabernacle provisoire dans le désert, à travers le candélabre, et il faut que ce soit de l'huile la plus pure possible. Bon, c'est pas tellement l'étude que nous allons avoir, mais je reviens à l'expression dès le premier verset. On s'attendrait à ce que Vaïdaber, Moshe, Vaïdaber, Hachem et Moshe, les mots, Tzav et Béni Israël. On s'attendrait à une toute la formule de nouveau, et Dieu parla à Moïse en disant, ordonne aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile. Mais le texte embraye directement en disant, et quant à toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël et qu'ils t'apportent de lui. C'est clair jusque-là ? Alors, le commentaire fondamental auquel je me réfère dit ceci. Nous allons partir d'un principe beaucoup plus général. C'est que, et j'espère être le plus clair possible, bien que schématique, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir, mais si c'est pas suffisamment clair, mais qu'on vient de parler de Dieu clair, arrêtez-moi d'ici. Chaque Neshama d'Israël a un lien avec la Torah. La Torah a été donnée pour Israël, Israël et l'Israël de la Torah. C'est un thème que nous étudions d'autre part. Et donc, ce principe de l'éthique, qui est un enseignement traditionnel de la parchanut, c'est-à-dire de l'étude du texte de la Torah en tant que texte, en tant que récit, indépendamment de l'étude de la Torah en tant que loi, qui est l'étude du Talmud, c'est que chaque juif, chaque Ben Israël, a son propre chidouche de la Torah, sa propre, je cherche mes mots pour être le plus clair possible, non pas sa propre interprétation de la Torah, mais le visage de la Torah qui ne peut être mis en évidence que parce que c'est un tel qu'il a lu. Chaque Neshama a une prérogative d'être capable de mettre en évidence un sens de la Torah qui est vrai pour tous, mais qu'elle seule a la capacité, la sgoula, le privilège de pouvoir dire, pouvoir faire passer de Torah Shebichtav à Torah Shebaalpeh, de texte écrit au texte parlé, à la parole parlée. C'est la notion de chidouche, que vous connaissez certainement, c'est-à-dire les mêmes enseignements dits par tel ou tel diseur, je ne sais pas celui qui dit, ont finalement une valeur de Torah très spécifique et chacun a sa spécificité propre, ne serait-ce que dans un verset, ne serait-ce que dans un mot, ne serait-ce que dans la manière d'entendre ce qui est dit pour tous, chacun a son chidouche. C'est bien clair. Et on a remarqué effectivement que tous les grands hachamim ont laissé, et malheureusement il s'en est perdu énormément, mais de ce qui est resté, ne serait-ce qu'en nombre et en valeur et en contenu, on s'aperçoit de tout ce qu'il y a eu comme chokhma de la parchanut de la Torah, c'est-à-dire de cette lecture de la Torah à la manière de chacun, chacun donnant le chidouche sur la Torah commune. Parce que c'est bien clair. C'est-à-dire pas tous les chidouchim ne sont authentiques. Je pense que vous comprenez par vous-même ce problème. Ceci dit, le chidouche doit être kasher, si j'ose dire, mais chacun a son chidouche. Par exemple, pour éclairer un peu cela, lorsque nous commençons à étudier, on peut se dire, mais pourquoi contribuer à cette étude puisque tout a été dit? On a souvent cette impression. Okay? Mais la réponse, c'est que tout a été dit, mais comme toi tu peux le dire, ça n'a pas encore été dit. Vous avez compris le propos. Alors on a donc remarqué que tous les grands chachamim nous ont écrit un pirouche de la Torah. Quand vous entrez dans une bibliothèque juive traditionnelle, on est vraiment très impressionné par le nombre de pirouchim sur le chumash que nous ont laissé les siècles de l'histoire d'Israël. Des centaines de milliers. De différentes valeurs, de différentes portées, si vous voulez, mais chaque fois avec cet accent personnel que chaque Neshama donne à sa lecture de la Torah, à son étude de la Torah. C'est ce qu'on appelle le chidouche de chacun. Et je pense avoir été suffisamment clair sur ce point. Alors on a remarqué à ce propos qu'il y a toujours une paracha où l'auteur de ce pirouche, semble-t-il, n'a rien à dire de particulier. Et on a remarqué, je vous dis les choses comme je vous ai appris, on a remarqué que c'est précisément la paracha de la semaine dans laquelle il est mort ou il va mourir, de sa mort. Alors là, il ne voit rien de plus. Vous voyez jusque-là ? Vous voyez comment ça se rattache ? À la paracha de la semaine du 7 Adar, ça s'indique déjà par le fait que le nom de Moïse n'apparaît pas dans le texte. C'est une première bonne. Alors, nous allons voir tout de suite que ça se relie à un des contenus des deux prières que Moïse a faites après la fête du Vaudor et qui est le thème de la paracha de Kitissa. Alors, nous allons prendre maintenant le texte de la paracha de Kitissa à partir du chapitre 32. Ce sont les textes que je vous ai demandé de lire en préparation. Je vais tout de suite isoler le verset qui se relie à ce premier thème, qui est la base de l'enseignement que je viens de vous citer, le fait que dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moïse n'apparaît pas, que c'est relié à ce principe général que toute Neshama a sa propre lecture de Torah Moshe, et sauf dans la semaine où il doit mourir. Ne me demandez pas d'expliquer comment ça marche, je ne sais pas. Okay. Mais tout ce qu'on fait, c'est que c'est comme ça. Et vous comprenez ce que je veux dire. Simplement, avant de vous citer donc ce verset qui est la base de cet enseignement, rappeler de cette correspondance entre le nombre des Neshamot d'Israël qui ont reçu la Torah au Sinaï, les 600 000 Neshamot d'Israël, et le nombre des lettres de la Torah. D'après la tradition, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Ne vous amusez pas à les compter, vous ne trouverez jamais 600 000. Parce que la manière de compter de telle sorte que ça fasse 600 000 est une manière secrète. Mais je vais vous donner un exemple. Je vois que c'est ça très, très rapidement. Et la correspondance est comme ça. Voilà, on dit comme ça le mot Israël. Je dis avec moi, on a marqué clair, alors ça va. Yes, ici, c'est beau, et puis l'autre, la porte. Ça va faire des études que je dis ça. En gros, ça veut dire qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Yes, ici. Quelque part, un des noms d'Israël, c'est Yeshua. Yes, ici, Ribo, Neshamot. Il y a donc 600 000 Neshamot de base, si vous voulez, et il y a 600 000 lettres dans la Torah. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas 600 000 lettres comme on les connaît, nous. Mais je me suis expliqué en faisant ça, je crois que c'est à Boulakia, mais c'est pas sûr. J'ai vérifié. C'est écrit que la forme des lettres de la fin hébraïque s'inscrit dans cette forme de l'énergie. Par exemple, la main. Par exemple, le cas. Voilà. Ça procède finalement de cette figure-là. Et alors, le lamed, c'est au bout de vos camps de lettres. Un rat et un cas. Vous avez compris comment ça finit par faire 600 000. Et il y a un livre d'un très grand kabbaliste, David Ben Zimra, qui a écrit un livre sur les lettres de la Torah. Le livre s'appelle Magen David, il est introuvable. Et il explique chaque lettre, sa composition, sa signification. Yes. Peut-être qu'un jour on fera un séminaire là-dessus. Et alors, voilà donc le principe de cette correspondance. C'est-à-dire que chaque homme d'Israël a son chidouche de la Torah. Qui finalement se traduit dans son pirouche, dans son commentaire, comme on peut traduire en français, plutôt sa manière de lire, sa manière de préparer, sa manière de, d'expliciter le texte commun à tous. Et c'est pourquoi il y a une halakha que chaque fois que quelqu'un a, dans son étude, établi quelque chose de nouveau dans la formulation, il a le devoir de le faire partager à tous. Et donc de le mettre par écrit. Ou de le faire enregistrer. Quand il fait ça. Parce que la Torah appartient à tout Israël, et celui qui ne donne pas le chidouch qu'il a reçu est appelé Zavlan. Comment on dit ça en français, Zavlan? Vol à main armée, violent. Bien. Et c'est vrai d'ailleurs, pour être complet sur ce point, tant sur les chidouchés Torah que les chidouchés dans le déréféré, c'est-à-dire au niveau de la sagesse, de la morale en général, qu'on appelle Darka de Hara, le déréféré. En araméen, c'est Darka de Hara. Chaque fois que quelqu'un a une idée, apparemment nouvelle, il doit vérifier si c'est nouveau, parce qu'il arrive très souvent qu'après, trois mois après, on lit dans un livre la même chose. Hein. Et alors très souvent, les rabbins sont expliqués une fois, quand ça leur arrive, avaient l'habitude d'écrire leur chidouche, et après d'ajouter une phrase très connue dans le milieu rabbinique qui utilise ces choses-là. Et ensuite, j'ai lu dans tel livre qu'un tel livre de tel siècle m'a volé ce chidouche. Et il l'a dit avant moi. Gazal Minelli. Bien, ça arrive très souvent qu'on croit que c'est quelque chose de nouveau, mais finalement on s'aperçoit que ça a été déjà dit. Mais quand même, jamais de la même manière. Alors quand ça arrive, on écrit dans sa manière et on cite, mais après j'ai retrouvé ça de cette manière-là dans tel autre livre. Bien, alors là, très brièvement, avant d'arriver dans l'étude des détails de la paracha de Kitsa, et avant d'arriver donc au problème du Seth Adar lui-même, en relation avec toutes ces questions, je vous rappelle les événements que vous avez explorés dans les lectures de ces chapitres-là, 30, 31, 32, etc., de la paracha de Kitty. C'est-à-dire que, après la révélation de la Torah sur le Sinaï, Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours, et puis le texte nous dit, c'est le début du chapitre 32, Vayar Aram qui boshesh Moshe la revet minahar. Et le peuple lui que Moïse tardait de descendre de la montagne. Il y a là un moment très important à comprendre, parce que d'après le Midrash, c'est un retard de 6 heures, et une allusion à un mot de boshesh qui signifie tarder. Et le Midrash le dit Bechesh. Chesh, ça fait 6. Le Midrash, pour des raisons qui lui sont propres, dit que le rendez-vous auquel le peuple s'attendait, que Moïse redescende sur la montagne avec les tables de la loi, il y a eu un malentendu horaire de calendrier, si j'ose dire, et puis c'est un retard de 6 heures. Entre-temps, le peuple est pris de panique et presse Aaron de faire une idole qui représenterait Moïse, ce Moïse qui ne redescend pas de la montagne. C'est finalement le premier moment de l'épisode du Vaudan. Lorsque Moïse redescend de la montagne, il s'aperçoit que cette partie d'Israël sortie d'Égypte, que le texte appelle le peuple, et ceux qui ont suivi déjà le cours la semaine dernière, ou certains autres précédents, savent déjà que chaque fois que la Torah dit Haram, il ne s'agit pas des descendants des tribus d'Israël, nous allons revoir ça très en détail dans ce texte aujourd'hui, mais il s'agit du Erev, de la foule qui est sortie d'Égypte en même temps qu'Israël, et que Moïse a intégré à Israël au moment de la sortie d'Égypte, nous en avons parlé en particulier la semaine dernière, vous vous souvenez. Okay? Chaque fois que c'est Haram, c'est le Erevav. Quand le texte veut parler des descendants des tribus d'Israël, le texte dit Bnei Israël. Quand la synthèse, l'unité des deux parties du peuple, les Bnei Israël, les descendants des tribus, les Hébreux, et tous ceux qui se sont adjoints à la destinée historique du peuple des Hébreux sortis d'Égypte, le Erevav, quand cette unité est faite, alors le texte emploie l'expression Ram ben Israël, le peuple des enfants d'Israël. Mais nous allons reprendre ça très en détail aujourd'hui. Et donc Moïse s'aperçoit que cette partie du peuple avait, et c'est ce que je me propose de vous montrer plus en détail, avait été responsable de la fabrication de cette idole, le Vaudor. Déjà je l'ai invité, c'est très important. Ceci est un enseignement très, très précis donné par Judas Lévi dans le Kuzari, que cette idole qu'ils ont construite, que nous avons appelée le Vaudor, n'était pas du tout destinée dans leur pensée à fonder un culte païen qui remplacerait le culte du Dieu unique, de Dieu lui-même, mais à remplacer Moïse. Nous allons voir ça très attentivement dans le texte. Et donc, Moïse brise l'étape de la loi, vous vous en souvenez, et puis prie pour intercéder pour que cette faute très grave soit pardonnée. Or, ce à quoi on ne prend pas souvent garde, c'est qu'il prie deux fois. Il y a deux prières. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi il y a deux prières et quel est l'objet de ces deux prières. Dans la deuxième de ces prières, et vous allez prendre le verset au chapitre 32, à partir du verset 31, c'est la deuxième prière que Moïse va faire. Et vous avez déjà la page, enfin, je vous la donne. Pardon ? Page 85 ?
180.
Ah, 180. Voilà, vous l'avez là, au verset 31, ici, dans la page 185. Alors j'ai lu le verset. Vayashov Moshe Hashem, et Moïse revint vers Dieu. Vayomar, et il dit, Anna, de grâce, Hata Aramazé, Hata Gdola. Ce peuple a fait une grande faute. Chet. Hata, c'est un peu comme Chet. Vayasu, Lahem Elokeza, Eloheza. Ils se sont fait des dieux d'or. Vayata, et maintenant, si vous voyez bien ce verset 32, Intisa Hatatam. Je vais un peu paraphraser dans la traduction, mais on revient à la traduction littérale. Im tisa hatatam veimaim. Ça veut dire, ou bien tu enlèves leur faute, si, ou bien tu suspends le châtiment, veimaim, ou bien pas. Im ne se traduit pas par ou bien. Im se traduit par si. Il faudrait lire comme ça. Et maintenant, si tu leur. C'est pas le mot de pardonner ici. Si tu les. Comment dire, suspendre le châtiment. Non. Non, mais vous comprenez l'idée. Ça veut dire leur donner un sursis. littéralement enlever, élever la faute. Et puis s'il se repent, la faute disparaîtra. S'il ne se repent pas, elle aura sa sanction. Intisa khatatam. Donc, ça veut dire, si tu enlèves leur faute, sous-entendu c'est bien, et sinon, mechelina misifrecha shekhatapta. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et ça veut dire, dans le pshat le plus immédiat, la Torah, le livre que Dieu a écrit. Par l'intermédiaire de Moïse. Mais c'est le livre que Dieu a écrit. Et donc, Tanit dit ceci. En fin de compte, nous allons voir que, d'après la réponse de Dieu, Dieu va accepter la prière de Moïse. Et il va suspendre la sanction de cette faute du Vaudor. Nous savons d'autre part que cette sanction de la faute du Vaudor ne va prendre acte, ne va prendre force, qu'après une deuxième faute qui est la faute des explorateurs. Et ça, rappelez-moi, si je ne me rappelle pas par moi-même, rappelez-moi de vous donner le lien entre ces deux fautes. Mais en tout cas, la faute du Vaudor ayant été faite, sur l'intercession de Moïse, Dieu va donner un sursis. Et puis ce sursis va prendre fin, la sanction sera scellée au moment de la faute des explorateurs. Et comprenez bien cela, la faute du Vaudor, c'est par rapport à la Torah qui a été promulguée sur le Sinaï. La faute des explorateurs, c'est par rapport à Eretz Israël. Et lorsque ce peuple ne va pas vouloir rentrer en Eretz Israël, alors Dieu tiendra compte de la faute du Vaudor. Et puis on poklit ou pakakti, nous allons voir ce verset immédiatement. Voilà la réponse de Dieu à cette demande de Moïse. La demande de Moïse, c'est donc ou bien tu suspends la faute, ou bien efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est une parole terrible. Hein? Et le Midrash explique comme ça. Qu'on ne dise pas, Moïse était là pour leur donner la loi, et c'est par rapport à la loi que telle ou telle conduite est faute ou pas faute, mais il n'était pas là quand il y a eu faute pour prier pour eux. J'ai compris le problème des deux questions de l'intercesseur entre Dieu et Moïse, entre Dieu et le peuple. Moïse porte la loi, donne la loi, mais entre le peuple et Dieu, Moïse porte la prière. Et alors, Moïse plaide ainsi dans le Midrash, qu'on ne dise pas, il était là pour nous donner la loi, c'est-à-dire faire que nos fautes sont des fautes. Parce que s'il n'y a pas de loi, les fautes ne sont pas des fautes. C'est clair cela, hein? Et Moïse n'était pas là pour intercéder pour nous. Alors si tu ne leur pardonnes pas, qu'on ne dise plus, ils ont des fautes par rapport à Torah de Moshe. On dira par rapport à la Torah, mais pas par rapport à Torah de Moshe. Ça, sur ce Midrash ponctuel là. Et Dieu répond, verset 23, « Vayomer Hashem et Moshe » et Dieu répond, « Ni Asher Hatali, celui qui a fauté contre moi ou vis-à-vis de moi, emchenu misifri, je l'effacerai de mon livre. » Sous-entendu, pas toi Moïse. Ok ? Bon, en fin de compte, nous verrons que la prière de Moïse a été entendue, que Dieu a suspendu cette faute dans le... la perspective suivante, c'est que le peuple sera mis à l'épreuve dans l'histoire et la sanction sera distribuée dans toute l'histoire et celui qui refera cette faute, c'est le signe qu'il l'avait vraiment faite et par conséquent il sera puni de sa faute et de la faute du Vaudor qu'il avait faite. Et ceci à l'échelle de l'histoire du peuple tout entier. Et il y a un des Midrashim qui explique comme cela à propos même de ce problème, que Dieu dit, ce peuple a fauté, je vais le détruire. Le Midrash emploie une expression habituelle, je jetterai la montagne sur eux. Et Moïse dit, ça, la règle de rigueur, la règle de justice absolue, veut qu'il en soit ainsi. La Midrash a dit, bien, mais Moïse intercède du point de vue de la Midrash à Rahamim, du point de vue de la Midrash de miséricorde, de la vertu de miséricorde, de la règle de miséricorde. Et il dit, c'est la sanction qu'il faut leur faire, mais ça doit être distribué tout le long de leur histoire. C'est-à-dire on va diviser la montagne en autant de petits cailloux, ils recevront chacun des petits cailloux, donc la montagne, mais le résultat ne sera pas exactement le même. Et alors, c'est ce verset-là, que 32 et 33, que le Talmud cite pour dire ceci, qu'il est la chacham, la malédiction d'un Talmud chacham, à filou al-chinam, même si elle n'a pas d'objet, l'itavo se réalise. Un principe dur, assez énorme. Ça veut dire que Moïse, d'une certaine manière, a proféré une malédiction. Or, il n'y avait pas d'objet, puisque Dieu lui répond, c'est celui qui a fauté contre moi que j'effacerai de mon livre. Mais puisqu'il l'a dit, ça va se réaliser d'une manière quelconque. Et le Talmud continue, et ça s'est réalisé quand? Dans la paracha de Tetzavé, où le nom de Moïse n'apparaît pas. Voilà le nom pour le premier thème. C'est clair? C'est clair jusque-là? Je dois quand même expliquer un peu plus, il est à ce niveau, qu'est-ce que ça veut dire que Kriyat Chacham, Afilu Akrinam Itavo, la malédiction d'un Tamid Chacham, même si elle n'a pas d'objet, se réalise, parce que la malédiction d'un Chacham a toujours un objet. C'est-à-dire, si ça a été formulé par un Tamid Chacham, c'est qu'il y a, même si c'est au niveau le plus inconscient, au niveau le moins dévoilé, le plus informulé, il y a quand même un objet, et à un certain niveau quelconque, ça doit s'exprimer. Je vais vous résumer, pour répondre à la question que pose ce principe, tout un ensemble de sources qui, finalement, tentent à dire ceci, c'est que il y a un certain risque de la divinisation de Moïse. Et c'est ce qui éclate dans le récit de la faute du Hébreu. Lorsque le Hébreu a demandé à Aaron, on le voit dans le texte, et a demandé à Aaron une idole pour remplacer Moïse, ça signifie qu'ils avaient divinisé Moïse. Et donc, je ne dis pas une responsabilité de la part de Moïse, je dis un certain risque objectif de la divinisation de Moïse. C'est dans ce risque que sont tombées précisément toute cette partie du peuple que le texte appelle le Hébreu, la grande foule qui n'était pas les Hébreux, qui n'avait pas l'éducation préalable des six générations des patriarches depuis Abraham, jusqu'à la sortie d'Égypte, et qui se sont intégrés à Israël avec leur comportement ancien. Et nous avons là très très précisément le risque de la divinisation du médiateur. Alors, donc c'est relié d'une certaine manière, la faute du Vaudor est reliée d'une certaine manière, et prenez attention à ce que je dis, je n'emploie pas du tout les termes de responsabilité ou de culpabilité de la part de Moïse, mais c'est relié objectivement d'une certaine manière à Moïse, par le fait que c'est Moïse qui a pris la décision de les intégrer en Israël sans cette préparation de ces six générations. Nous allons voir ce dialogue tout à l'heure, tel que Rashi le restitue en se basant sur le Midrash. Il y a là deux éléments qu'il faut penser ensemble. Il était nécessaire d'intégrer ces hommes et ces femmes à Israël à la sortie d'Égypte, et Moïse savait que c'est l'intention ultime de Dieu lui-même, mais cependant c'était extrêmement périlleux, dangereux de les intégrer avec précipitation, sans préparation, et Moïse l'a fait quand même. Et de penser cela simultanément, que les deux choses sont vraies. Et je vais simplement, en parenthèse, vous indiquer quel est le problème grave contemporain et qui se relie à ce thème, c'est le problème de Giur Kahalacha ou Giur Pakahalacha. Toute la question de l'union juridique qui se discute à la Knesset, c'est ce problème-là. Les uns ont pour motivation la seconde motivation de Moïse, puisque ce sont des candidats à l'histoire d'Israël, ils sont déjà d'Israël. Tout de suite, okay. Ça c'est le... je ne sais pas, ceux qui voteraient à la Knesset contre la précision de Giur Kahalacha. Okay? Les autres disent, oui, d'accord, mais Kahalacha, pas tout de suite. Parce que sinon, rappelez-vous, le Révar et tout le reste. Vous vous rappelez d'ailleurs ce que nous avons étudié à ce sujet à propos de la Parasha de Truma. La même quantité, la même parcelle d'or, qu'est-ce qui va en sortir? Le candélabre brûlera la lumière pure ou le d'or, c'est bien clair le problème. Oui, donc important. Alors, dans ce problème-là que pose la loi de Nini Yehudi, la réponse n'est pas oui ou non, comme d'ailleurs tous les grands problèmes qui divisent la société israélienne. La réponse est beaucoup plus vraie que cela. Elle est bien sûr oui, mais aux conditions de l'authenticité du oui. C'est ce qui s'appelle le Yoka Alaha. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Vous savez aussi que combien la société israélienne est agitée par le problème des Juifs d'Éthiopie, et que c'est quelque chose d'analogue. Okay? Et la réponse, je l'ai déjà dit, je répète. Alors, mais vous comprenez un peu, si vous voulez, cette dialectique de position qui se trouve déjà dans le Midrash. Je rappelle simplement les deux formules, les deux principes. Moïse sait que c'est le plan de Dieu d'intégrer à Israël ceux des hommes des nations qui ont eu la même histoire qu'Israël en Égypte, quelle que soit la manière dont ils l'ont perçu, dont ils l'ont vécu, dont ils se l'expriment. La dialectique Galut-Géoula, vous rappelez, nous avons étudié ça la semaine dernière, okay? Et par conséquent, Moïse sait qu'il faut le faire, et je vous donnerai d'autres raisons supplémentaires tout à l'heure, au courant de la lecture, mais à certaines conditions, ça c'est le deuxième principe. Et la discussion entre Dieu et Moïse est très précise dans les Midrashim que va citer Rachid, dans le texte lui-même. Les deux choses sont vraies, et c'est pourquoi finalement, c'est le temps d'épreuve de l'histoire qui montrera qui était Kahalacha, qui n'était pas Kahalacha, à l'échelle de l'histoire collective. C'est pourquoi en particulier, on va buter très rapidement sur la faute des explorateurs, et lorsque ce Ezra va dévoiler que, à la rigueur, la Torah, oui, c'est très bien, mais il ne veut pas d'Eretz Israël, alors là se dévoile une catastrophe. J'ai compris pourquoi c'est à ce moment-là que la sanction sera donnée. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur la définition du RRA. Et voilà donc pour le premier point, c'est-à-dire la raison pour laquelle, dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moïse n'apparaît pas. Pourquoi, en particulier dans la paracha de Tetzavé, et par correspondance avec ce qu'on a déjà, corrélation avec ce qu'on a déjà appris, c'est la paracha de la semaine de la mort de Moïse, ça c'est le premier principe. Eh bien, c'est parce que finalement, le risque de l'idolâtrie vient de ce risque de la divinisation de Moïse, et par conséquent, c'est à Moïse à se débrouiller, je ne sais pas comment dire ça mieux, à s'arranger pour que le culte rendu à Dieu, au Dieu vrai, au Dieu unique dans le temple, soit sans allusion à Moïse en tant que médiateur. Puisque le culte de ce temple sera la rédemption de la faute de l'idolâtrie. C'est clair jusque-là ? C'est à toi de faire ça. Ve'ata tetzaveh. Quant à toi, et tu sais très bien pourquoi, alors toi, et je ne dis pas ton nom, pour pas qu'on dise le temple que Moïse nous a construit, parce qu'on risquerait d'adorer Moïse là-dedans. Vous avez compris, Moïse ? D'ailleurs, ceux d'entre vous qui ont assisté hier à l'exposé de Benobros sur le monothéisme de Maïmonide, vous avez remarqué, mais je vous invite de nouveau, comme je dis à chaque fois dans ce séminaire, et je le répéterai encore, à lire Maïmonide dans le texte, ne serait-ce qu'en français. Vous avez une excellente traduction de Salomon Mouk, qui a été rééditée par une édition popularisée, et donc c'est disponible dans toutes les bibliothèques. Comment ça traverse tout l'enseignement de Maïmonide, en particulier dans le Guide des Égarés, de l'intention de toutes les prescriptions de la Torah pour nous mettre en garde et nous vacciner, si j'ose dire, contre toutes les tentations de l'idolâtrie. Vous vous rappelez de ce thème qui était très clair hier soir, et c'est pas l'unique intention des mitzvot, mais Maïmonide a mis l'accent en particulier là-dessus de façon très systématique. D'ailleurs, nous reprendrons ce thème à la fin du séminaire de Maïmonide lors de la conclusion. Bien, alors je reprends donc notre texte. D'une certaine manière, c'est en relation avec ce risque de la divinisation de Moïse, et par conséquent, Moïse, sans que son nom apparaisse, doit arriver à ce que on construise le temple de vérité qui fera la rédemption de la faute du monde. Voilà donc pour le premier thème. Alors je reviens maintenant à la lecture du récit de cette faute avec. Et vous avez un certain nombre d'indications très précises dans le texte qui ne sont pas toujours suffisamment visibles, et avec comme objet de l'étude en particulier la raison pour laquelle Moïse a prié deux fois pour obtenir, dans son intercession, pour obtenir que Dieu suspende la sanction de cette faute. Alors prenons tout de suite dès le début du chapitre 32. Est-ce que. On pourrait peut-être quelque part ouvrir une des deux côtés parce que je sens qu'il va faire bientôt très très chaud. Je vais un peu plus élevé. C'est un petit peu. Oui. Alors, c'est fermé à clé, Annie ? C'est fermé à clé ? Stop.
Ça va,
c'est clair. D'accord. Alors, prenons dès le début. Donc, nous avons vu le début du premier verset du chapitre 32. Le peuple s'aperçoit que Moïse a tardé. Et alors, il faut d'abord expliquer cette précipitation, cette panique. Moïse a tardé, et tout de suite il faut faire le redor. Petite parenthèse, je l'avais dit à une autre année, vous savez que les thèmes de l'antisémitisme classique ont utilisé cette expression du redor pour accuser le peuple juif de cupidité. Le redor, ça veut dire l'adoration de l'argent. C'est pas du tout ça dans le texte. C'est parce que ces païens-là étaient très pieux, leur idole les a mis en or. C'est juste le contraire. Hein. C'est pas l'or qu'ils adoraient. C'est avec l'or qu'ils honoraient leur idole. Vous comprenez la différence. Bon, j'espère que c'est suffisamment clair. Il y a énormément de calomnies dans l'antisémitisme, comme vous savez. Et alors là, c'est la suite du verset. Vaïkahel Aram, le peuple s'est rassemblé à l'Aaron. Contre Aaron, littéralement sur Aaron, Vayomru, Elir, Ela va lui, Koum, lève-toi, et ça veut dire décide-toi. Asela, suivez bien, Asela nous Elohim, fais-nous des dieux, et ce pluriel ici va se retrouver dans le verbe, donc c'est pas un singulier, c'est vraiment les dieux au pluriel, les idoles, fais-nous une idole, Asheri les Khou, et c'est un pluriel, qui marcheront devant nous. Car celui-là, Moïse, l'homme Moïse, Asheré Aïla, nous n'est Israël, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, mais Yadarnou n'est Ayalo, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, ce qui lui est arrivé. Et cette précipitation. Alors, tout de suite, vous avez l'indication principale du début de cette étude, c'est que l'intention même de ceux qui voulaient faire ce Vaudor n'était pas de remplacer le culte au Dieu unique qui s'est révélé au Sinaï, mais de remplacer Moïse. C'est dit en clair. Fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, qui nous guideront, car cet homme Moïse, qui nous a fait monter d'Égypte, nous savons plus qu'il est. Il n'est pas redescendu de la montagne. Comme dirait le vocabulaire chrétien, une ascension. Et alors, on va essayer de comprendre cette précipitation. Au Sinaï, il s'est passé quelque chose de radicalement nouveau dans l'histoire des religions, dans l'histoire de l'expérience religieuse de l'humanité. Et en particulier le Hérera, qui a eu l'expérience historique analogue à celle d'Israël en Égypte, malgré tout était imprégné des comportements religieux de la religion du temps, de ce temps-là, et qui a sa religiosité propre, et qui était l'adoration et l'asservissement aux forces de la nature. Ce qui est la phrase la plus simple qu'on peut employer pour définir l'idolâtrie, le paganisme, quel que soit par ailleurs le symbolisme propre à chaque culture ou à chaque société. En fin de compte, le minimum commun des religions païennes, c'est la transfiguration, la divinisation, et donc l'adoration et le culte des forces de la nature et des religions divinités. C'est pas la peine d'en dire plus, ça prendrait trop de temps, je pense que c'est suffisamment clair. Et voilà qu'un événement radicalement nouveau intervient dans l'histoire des religions par l'événement du Sinaï, dont Moïse est le porteur, c'est que c'est la loi morale qui va se substituer aux forces naturelles comme étant l'expérience religieuse. Si la phrase suffit, ça suffit. Sinon, j'explique un peu. C'est-à-dire, c'est vraiment un choc. Les Hébreux sont préparés à cela. Depuis Abraham, Isaac, Jacob, et je prends les six générations jusqu'à Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, Amram et Moïse. J'en ai oublié un. Et donc, les Hébreux sont préparés, surtout la tribu de Lévi, en particulier à Aaron, qui, Moïse étant son frère aîné, mais étant Moïse le chef politique, Aaron, lui, va devenir, par définition, le grand prêtre d'Israël, de cette religion d'Israël. Et je dis surtout à Aaron pour indiquer déjà un peu à l'avance que son rôle dans la fabrication du veau d'or est mal compris. Et puisque apparemment c'est lui qui l'a fait. En réalité, c'est lui qui les a empêchés de le faire. Mais nous verrons ça tout à l'heure, assez rapidement. Et donc voilà, cette révolution dans l'expérience religieuse où c'est la loi morale qui va se substituer à la relation aux forces de la nature, en particulier les religions astrologiques et les religions des forces du zodiaque, vous savez tout ça, est tellement nouveau. Or, le garant de cette vérité nouvelle, c'est Moïse, et voilà que Moïse, apparemment, est comme une de ces divinités des religions païennes, le médiateur divinisé qui remonte au ciel et qui redescend. Et vous voyez comment ça les fait retomber dans leur mentalité précédente. C'est clair jusque là. Alors donc, tout naturellement, s'il en est ainsi, si ce Moïse est en réalité une des divinités, genre type médiateur divinisé, alors il retombe dans la religiosité antérieure. Au Sinaï, ils ont accepté la loi morale comme religion authentique. Moïse étant là, Moïse n'étant plus là, alors tout revient comme avant. C'est-à-dire, on s'est trompé. Moïse était une divinité païenne. C'est clair jusque-là? Et ils ont voulu donc le symboliser, le représenter pour remplacer Moïse. Voilà donc ce qui explique, en grande partie en tout cas, le sujet n'est pas épuisé bien sûr, ce qui explique cette panique, cette précipitation de cette partie du peuple, Moïse n'étant plus là. Et j'en dirai pas plus aujourd'hui sur cette analogie, mais à quel point cette idolâtrie du Vaudor est très analogue aux motivations profondes de l'apparition du christianisme. Je pense que c'est bien clair. Okay. Où on est pris de la panique devant la loi morale comme étant la règle du salut religieux, et on retombe dans le même comportement de divinisation du négateur, etc. Et vous voyez à quel point c'est extrêmement analogue. Okay. Et au fond, Bon, ça suffit là-dessus, je crois que c'est suffisamment clair. Alors, ensuite, nous avons un certain nombre de versets où Aaron tente de retarder l'événement. Il demande à chaque membre du peuple de donner les anneaux qui indiquaient la signe de la tribu. Vous savez que dans ce temps-là, chaque appartenance familiale ou chaque appartenance tribale était indiquée par un certain signe vestimentaire. Je sais pas, par exemple, le nom qui me vient à l'esprit chez les Écossais, c'est la manière dont la jupe culotte. Et puis il y a d'autres formes dans les autres sociétés. Et alors, en ce temps-là, en particulier, la filiation familiale tribale était indiquée par la forme du bijou qu'on se mettait comme anneau. Soit à l'oreille, soit au nez, d'ailleurs, les deux. Et puis, Nizmaza, Vacher Dovnehem, ici c'est les boucles d'oreilles. Et voilà la stratégie de Aaron pour retarder le risque de l'événement, et il nous en suit dans le verset lui-même, c'est de les inviter à constituer d'abord la première instance de ces divinités médiatrices, c'est-à-dire l'être collectif d'Israël. C'est-à-dire au fond, tout se passe comme s'il leur a demandé de faire un Magen David. C'est avec un Magen David, un bijou Magen David, qu'on se montre juif. Il donne ça comme analogie, comme comparaison. Okay? Et le Midrash dit que finalement, toute cette or-là, il l'a jeté dans un creuset, et il en est sorti la forme d'un taureau, et c'est ce qui est, d'une certaine manière, le totem d'Israël en tant que peuple, d'après les versets, qui font partie de cette tribu avec l'animal, vous savez ça. C'est aussi une forme symbolique, totémique d'Israël en tant que nation, cette forme-là. Un peu de notre temps, nous dirions à Madeleine. C'est-à-dire que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est-à-dire qu'il y a ici une stratégie de l'avant pour retarder cet événement. Quand en réalité, il y a une médiation entre le Dieu et Israël, comme on l'a représenté, par l'entité nationale d'Israël. Et il y a là d'ailleurs un piège dans l'histoire d'Israël, de substituer l'entité nationale d'Israël à Dieu. Une espèce de chose digitale, un appel qui remplacerait la relation de Dieu. De mettre l'identité d'Israël entre Dieu et les hommes. On appelle cette histoire très longtemps à la Bible, et j'avais assisté à une histoire littéraire en hébreu, et puis il y a un poète ukrainien qui citait un poème de trois services, de la démocratie, de cette génération, et cette tentation de dépatrier ce qu'il peut y avoir de relation au Dieu d'Israël dans l'histoire d'Israël, et de substituer Israël en tant que divinité médiatique. Et dans le vocabulaire contemporain, ce serait un peu un nationalisme de chauvinisme qui se substituerait de l'Israël. Alors, j'en comprends, il disait comme ça, le verset, Ma Israël, la Sénégalité générale, et il disait comme ça, comme la scène, en fait, il disait comme ça en France, Ma Israël, 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 Israël. C'est le verset. Il y a quelque chose de très fort. C'est-à-dire, dans une stratégie de casualisation et de retardement de cette tentative de l'idolâtrie à ce moment-là,